Chapitre 5. L'octopode était inconscient, et Nicole tendit un petit récipient en plastique au docteur Bleu. Les minuscules créatures qu'il contenait se disséminèrent dans le sang vert foncé qui avait envahi la plaie béante, et moins d'une minute plus tard, sa collègue utilisait trois de ses tentacules pour recoudre l'incision avec dextérité.
« Ce sera tout pour aujourd'hui, » dit-elle. « Nous vous remercions comme toujours pour votre aide, Nicole. »
Elles sortirent du bloc opératoire. Nicole ne s'était pas encore habituée à la méthode de stérilisation, et elle inspira à fond avant de retirer sa blouse et de plonger les bras dans une grande cuvette pleine de douzaines d'insectes ressemblant à des poissons d'argent. Elle combattit sa répulsion en sentant les créatures visqueuses grouiller sur ses avant-bras et ses mains.
« Je sais que cette sensation est pour vous très désagréable, » dit le docteur Bleu, « mais nous n'avons pas le choix, à présent que l'eau a été contaminée par les bombardements. Les hommes ont donc tout détruit au nord de la forêt ?»« Presque. Et leurs ingénieurs ont modifié leurs hélicoptères. Le maître optimiseur pense qu'ils pourront survoler la forêt dans une ou deux semaines. »
Ils n'ont pas répondu à vos messages?
Non. Nous savons que Nakamura les a lus, mais ils ont capturé et tué notre dernier envoyé à proximité de la centrale énergétique, en dépit du fait qu'il avait un drapeau blanc.
Nicole soupira. Elle se rappelait le commentaire de Max lorsqu'elle s'était déclarée surprise par l'absence de réaction du tyran.
Fallait s'y attendre, avait-il dit avec colère. Ce salopard ne comprend que la force. Les octos lui répètent qu'ils veulent la paix et qu'ils se défendront si les humains poursuivent leurs attaques. Mais je vous le demande, à quoi ça peut servir dès l'instant où les soldats avancent en détruisant tout sur leur passage sans rencontrer la moindre résistance? Le maître optimiseur n'a donc rien appris sur nos semblables? Les octopodes doivent absolument les affronter.
Ils ne se livrent pas à des escarmouches ou même à des batailles,
avait-elle répondu.
Ils se lancent dans une guerre totale et uniquement quand leur survie est menacée. Tout est expliqué en détail dans ces missives où Nakamura est invité à parler à Richard et Archie.
Le docteur Bleu lui adressait des couleurs. Elle secoua la tête et regagna le présent.
Attendrez-vous Benji ou irez-vous directement au centre administratif?
Demandait l'octopode. Nicole regarda sa montre.
Je vais partir tout de suite. De bonnes heures me sont nécessaires pour assimiler les données que les quadroïdes nous transmettent. Il se passe tant de choses. Dites à mon fils d'annoncer à nos compagnons que je rentrerai pour dîner.
Elle sortit de l'hôpital et se dirigea vers le centre administratif. Bien que ce fût l'après-midi, les rues étaient presque désertes. Elle croisa trois octopodes et deux crabes dont la présence lui parut déplacée. Le docteur Bleu l'avait pourtant informé qu'ils avaient commandé aux Raméens des biotes pour assurer le ramassage des ordures.
La cité a changé. La plupart des vieux octos travaillent à l'arsenal. Il n'y avait pas ici un seul biote avant le départ des créatures qui constituaient leur bestiaire. Max pense qu'ils les ont éliminés afin de réduire le nombre de bouches à nourrir et d'économiser les vivres. Ils voient toujours nos hôtes sous leurs plus mauvais jours.
Après sa permanence à l'hôpital, Nicole accompagnait souvent Benji à l'arrêt d'autobus. Son fils donnait un coup de main au personnel hospitalier. Depuis qu'il était conscient de ce qui se passait dans la cité d'Émeraude, Nicole avait des difficultés à lui dissimuler la gravité de la situation.
Pourquoi les hommes veulent-ils tuer les octopodes?
Avait-il demandé. Une semaine plus tôt.
Ce sont pourtant nos amis.
Les colons ne les comprennent pas.
Alors, c'est qu'ils sont encore plus bêtes que moi,
avait-il conclu. Lorsqu'il s'était porté volontaire, les octopodes avaient émis des réserves en raison de son handicap. Mais sitôt que Nicole lui avait expliqué en quoi consistait une tâche simple, il l'exécutait sans faire la moindre erreur. Elle songea alors à Cathy.
Les parents accordent trop d'importance aux capacités intellectuelles de leurs enfants et pas assez aux autres. Ce qui est capital, c'est la façon dont ils utilisent leurs possibilités. Benji est pour moi une source de fierté, alors que je n'aurais jamais imaginé que Cathy...
Elle pénétra dans l'immeuble et le fil de ses pensées se rompit. Un garde la salua du tentacule. Lorsqu'elle entra dans la salle de projection, elle fut surprise d'y trouver le maître optimiseur.
« Je voulais saisir cette opportunité de vous remercier et de vous réaffirmer que vous et vos compagnons serez traités comme des membres de notre espèce. »
lui déclara-t-il.
« Quoi qu'il puisse se produire au cours des prochaines semaines. La situation risque donc de dégénérer ?»
demanda-t-elle en voyant qu'il allait la laisser.
« Oui. Dès que les humains survoleront la forêt, nous devrons riposter. »
Après son départ, Nicole s'assit devant la console. Elle n'avait pas accès à la totalité des vues en provenance du Nouvel Éden, mais pouvait visionner tout ce qui se rapportait à sa famille. Et si elle s'abstenait de s'informer sur Cathy afin de s'épargner des souffrances inutiles, observer Nikki était pour elle une source permanente de joie. Nicole s'inquiétait pour Ali, dont le mari se réfugiait dans le travail pour ne pas avoir à affronter ses émotions. Il manifestait un minimum d'affection envers sa fille et n'adressait la parole à sa femme que pour lui dire qu'il était encore trop tôt lorsqu'elle abordait le sujet de leur relation sexuelle. Pendant ces longues heures où elle observait ses enfants, Nicole se demandait souvent si elle n'aurait pas pu mieux les préparer à affronter l'existence.
Procréer est une aventure dont on ne peut prévoir l'issue,
pensa-t-elle en voyant Ali pleurer.
La seule certitude, c'est qu'on ne pourra jamais s'estimer satisfait de ce qu'on a fait.
Elle gardait Richard pour la fin. Toujours convaincue qu'ils ne seraient plus jamais réunis, elle aimait le voir dans sa prison. Elle appréciait tout particulièrement ses conversations avec Archie, bien qu'il fût difficile de lire sur ses lèvres. Cela lui rappelait le passé, après leur évasion du Nouvel Éden, lorsqu'ils parlaient interminablement de tout et de rien. La visite de Cathy la sidéra. Elle n'avait pas suivi l'avis de sa fille d'assez près pour deviner qu'elle et Franz avaient trouvé un moyen de passer voir Richard. Les images des quadroïdes couvraient les infrarouges et elle vit mieux la scène que ses participants. Elle fut émue quand sa fille avoua qu'elle était une toxicomane et elle repassa plusieurs fois la séquence pour s'assurer qu'elle interprétait correctement les mouvements de ses lèvres.
Pour résoudre un problème, le premier pas consiste à en admettre l'existence.
Des larmes faisaient briller ses yeux lorsqu'elle prit l'autobus pour regagner l'enclave humaine. Mais il s'agissait pour une fois de larmes de joie. Patrick et les jumeaux étaient à l'extérieur quand Nicole descendit du véhicule à l'extrémité de l'impasse. Sitôt qu'elle approcha, elle comprit que son fils tentait de régler un des nombreux différends des deux garçons.
« Il triche toujours !» disait Kepler. « Je lui ai dit que je ne jouerais plus avec lui et il m'a frappé. C'est un mensonge !»
rétorqua Galilée.
« Je l'ai tapé parce qu'il m'a fait une grimace. Mon frère est mauvais joueur. Quand il ne gagne pas, il préfère tout arrêter. »
Patrick les sépara et les envoya s'asseoir aux deux extrémités de la maison.
« Tu ne devineras jamais de qui Richard a reçu la visite, »
lui dit-elle en souriant.
« Cathy !»
Son fils voulut obtenir des détails et elle lui résuma ce qu'elle avait vu.
« Ne sois pas trop optimiste, » lui conseilla-t-il. « Elle préférerait mourir plutôt que de se passer de Kokomo. »
Il se détournait pour annoncer aux jumeaux qu'ils pouvaient retourner jouer quand deux fusées grimpèrent vers le ciel et explosèrent. Dès que les énormes sphères rouges s'éteignirent, la ville sous dôme fut plongée dans les ténèbres.
« Venez les enfants, il faut rentrer !»
dit-il avant d'ajouter à l'attention de Nicole.
« C'est la troisième fois aujourd'hui. »
Le docteur Bleu m'a dit qu'il décrétait une extinction des feux sitôt qu'un hélicoptère s'élevait au-dessus de la forêt.
Ils ne veulent pas courir le risque de révéler l'emplacement de la cité d'Émeraude.
Tu penses que Nakamura recevra Archie et oncle Richard ?
J'en doute. S'il avait voulu les voir, ce serait chose faite.
Éponine et Nai vinrent la saluer. Les trois femmes parlèrent du blackout. Éponine essuya le menton de Marius, qui était devenu un bébé joufflu, afin que Nicole pût l'embrasser.
Max arriva et lui tendit un verre.
Tenez, goûtez-moi ça. Ce n'est pas de la tequila, mais c'est ce que les Octos ont pu faire de mieux à partir de mes explications. Et je vous propose de porter un toast à ceux qui, comme nous, n'ont absolument aucun contrôle sur leur avenir. Puissions-nous nous aimer les uns les autres et rire jusqu'à la mort.
Il y avait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu ivre. Il insista et elle goûta au breuvage. Elle eut aussitôt la gorge en feu et les yeux larmoyants.
Avant de passer à table, je suggère que chacun nous raconte une blague pour détendre l'atmosphère,
ajouta Max en écartant les bras.
À vous l'honneur, Nicole Desjardins Wakefield.
Désolé, mais je n'en connais pas.
Éponine fut soulagée de constater qu'elle ne s'offusquait pas de la conduite de son mari.
Alors, c'est moi qui vais commencer,
déclara-t-il. Un rot ponctua sa phrase et les jumeaux rirent.
J'ai connu un drôle de couple là-bas en Arkansas. Un soir qu'ils se sont disputés, la femme va se coucher de bonne heure en bouillant de colère. Le mari reste dans la cuisine pour se remonter le moral à coups de tequila. Mais son épouse, qui le connaît bien, sait qu'il ne tardera guère à venir la réveiller pour sceller leur réconciliation par une partie de jambes en l'air. Alors, elle sort de la ferme, va chercher la plus petite détruit et la ramène dans leur chambre.
Nicole commençait à redouter le pire, mais elle vit que Nai riait avec les enfants et elle se reprocha d'être une rabat-joie.
Le fermier ivre entre en titubant dans la pièce sans voir que sa femme s'est cachée dans un angle et que c'est une truie qui est dans le lit. Il se déshabille, se glisse entre les draps, attrape la truie par les oreilles et lui roule une pelle. La truie gueule comme un cochon qu'on égorge et le fermier lui demande « Dis donc, mon amour, tu n'aurais pas oublié de te brosser les dents ?»
Nicole regarda autour d'elle. Tous riaient.
Max avait raison. Nous avions besoin de nous détendre.
Mon frère Clyde en connaissait un tas.
Il se tut brusquement, puis grommela.
Merde, je me suis cru de retour en Arkansas. Je ne sais même pas à combien de milliards de kilomètres nous sommes de la Terre. Quand je rêve que je suis revenu là-bas, je crois pendant quelques secondes après mon réveil que c'est notre vie dans la cité d'Émeraude qui est un fruit de mon imagination.
C'est pareil pour moi,
dit Nai.
Il y a deux nuits, j'ai rêvé que j'étais dans le Hong Pra, de la maison de mes parents, à Lamphun. Je récitais mon mantra quand Patrick m'a réveillé en me disant que je parlais en dormant. Je ne savais plus où je me trouvais. C'était angoissant.
Max se tourna vers Nicole.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Les vidéos des quadroïdes étaient étranges,
déclara Nicole en souriant.
J'ai cru m'être trompé de banque de données en voyant un cochon, un poulet et un couple de fermiers. Et à propos de poulet, est-ce que je suis la seule à avoir l'estomac dans les talons ici ?